Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allemagne.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allemagne.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour pour une nouvelle chronique de l'Alep, toujours avec Muriel Duguay.
Bonjour.
Bonjour Muriel, qui est aujourd'hui accompagnée de Fabien.
Bonjour Fabien.
Bonjour.
Alors, la semaine dernière, on parlait des tourbières et des espèces incroyables qui étaient associées et tous les bienfaits qu'elles pouvaient jouer. Aujourd'hui, on change de bain et on troque les eaux stagnantes des tourbières pour les eaux courantes des rivières, nombreuses en Lozère. Alors, on disait que c'était le département des sources. Les rivières de Lozère sont donc situées plutôt en tête de bassin versant, là où les activités humaines n'ont normalement pas encore eu trop d'effet sur leur qualité. Alors, est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que les eaux de Lozère sont d'excellente qualité? Et quelles espèces on peut croiser en nous baladant au bord du Lot, du Tarn ou de la Truyère? Pour en parler, on accueille Fabien Sané, qui est directeur naturaliste à l'Alep, qui a mené de nombreuses études sur le territoire. Fabien, d'après toi, enfin, est-ce que tu peux nous faire un rapide état des lieux de l'état des rivières en Lozère?
Alors, je connais pas à fond le problème, mais je crois qu'on peut dire que localement, ça s'arrange suite à un important effort des collectivités, notamment pour en termes d'assainissement. Relativement au fait que la population estivale pouvait décupler, notamment dans les sites les plus touristiques, c'est-à-dire par exemple les gorges du Tarn, où la population de certains villages était multipliée par 10. Du coup, il y avait des problèmes d'assainissement qui ont été pris en compte il y a un peu plus d'une dizaine d'années, et qui le sont toujours d'ailleurs. Et du coup, à ce niveau-là, les eaux du Tarn s'améliorent, oui. Par contre, il y a d'autres cours d'eau. Enfin, un autre cours d'eau qui est d'excellente qualité, par exemple, c'est le Gardon de Mialet. Toujours grâce à des efforts sur des assainissements qui font que maintenant l'eau est cristalline et chacun peut, en se baladant au fil de l'eau, voir à quel point les eaux sont transparentes.
Et en profiter pour se baigner.
Tout à fait, pendant les canicules sévenoles. Par contre, après, il y a d'autres secteurs, par exemple, sur la Cologne vers Marvejols, où il peut y avoir localement des problèmes de nitrate, où les seuils sont dépassés, en tout cas les seuils européens qui sont inférieurs aux seuils français. Et par exemple sur le Lot, au niveau de certaines mines abandonnées qui sont plus exploitées, où il peut y avoir des concentrations assez élevées de métaux lourds ou de plomb.
Et alors vous parliez d'efforts tout à l'heure. Quels sont tout simplement les efforts qu'on a à faire pour assainir un fleuve ou une rivière?
C'est essentiellement éviter les rejets domestiques ou industriels directs dans les cours d'eau. Enfin, industriel, ça devient rare, mais en tout cas, on sait qu'il y a des campings ou des habitations individuelles qui rejettent encore directement leurs effluents dans les cours d'eau. Et donc, ça passe par le tout à l'égout, puis la construction de stations d'épuration modernes qui permettent de traiter tous ces effluents pour rejeter des eaux de bonne qualité dans les cours d'eau, quoi.
Après, il y a les choix aussi que chacun peut faire au niveau de ses consommations de produits d'entretien et de produits ménagers qui peuvent être plus ou moins nocifs pour l'environnement et en plus ou moins grosse quantité aussi.
Et donc, c'est quoi qu'il faut éviter
Par exemple, l'eau de Javel, c'est très nocif. Et après, dans les lessives, dans les produits ménagers, vous avez toute une ribambelle de choix. Hein. Il y a qu'à regarder le rayon du supermarché pour s'en rendre compte. Avec des choix plus ou moins écologiques, donc avec des composants qui se dégradent plus ou moins rapidement dans la nature. Voilà. Et puis après, le top du top, vous pouvez fabriquer vous-même votre produit ménager avec des produits assez sains, comme le savon de Marseille, comme le bicarbonate. Enfin voilà, ce genre de choses. Mais là, ça demande un petit effort de préparation qui n'est pas énorme, mais voilà. Donc c'est possible aussi de fabriquer ses produits ménagers soi-même.
Ouais, bon, on pourra peut-être y revenir si
voilà.
C'est...
Ouais.
Et comme dit l'autre, il n'y a pas de petit geste quand on est 60 millions à le faire.
Exactement.
Alors, pour revenir à nos rivières, on a la chance d'avoir en Lozère une superbe ambassadrice des rivières, la loutre. Est-ce que tu peux nous présenter l'animal?
Alors la loutre, c'est un carnivore de la famille des mustélidés. Donc c'est une famille qui intègre également le blaireau, la martre, la fuine, le vison. C'est un animal semi-aquatique, c'est-à-dire qu'il passe une grande partie de son temps dans l'eau, mais qui peut s'en éloigner ponctuellement, sporadiquement. mais c'est principalement un super prédateur des cours d'eau qui se nourrit en grande partie de poissons. Même si en zone de montagne, son régime alimentaire est plus diversifié que dans les zones de plaine où là, elle mange quasiment 100% du poisson, alors qu'en Lozère, on a fait une étude par exemple sur la montagne de la Margeride où on peut voir qu'elle enrichit son régime de reptiles, d'oiseaux, d'insectes et de pontes de grenouilles au moment du frais notamment, c'est-à-dire au printemps.
De pontes de grenouilles.
Surtout d'adultes, pardon.
Ouais.
Plutôt d'adultes.
Au moment où elles viennent pondre.
Au moment où, tout à fait, merci.
Ok, du coup, on peut facilement espérer voir une loutre en se promenant au bord du Tarn, du Lot ou de la Truyère ?
Alors maintenant, oui. D'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, je crois, il y a des fonctionnaires de la DDT qui ont pu voir la belle évoluer dans le Lot en pleine journée. Je crois que quelqu'un l'a vu et a rameuté les collègues du bureau pour qu'ils puissent venir la voir du côté de la gare, là, vers le pont vieux, où on pouvait la voir s'ébattre en plein jour. Et ces observations diurnes deviennent de plus en plus fréquentes parce que le statut de l'espèce s'améliore nettement en Lozère.
D'accord. Alors justement, quelle est son histoire par rapport à l'homme ? Elle a toujours été présente ? Elle est revenue ? Comment ça s'est passé ?
Alors, l'histoire de la loutre, c'est une belle histoire d'une espèce qui a failli disparaître d'Europe. Tellement elle a été persécutée, notamment par les chasseurs et les pêcheurs. Et c'est aussi l'histoire, depuis le milieu des années 80, d'une reprise et d'une recolonisation, d'une amélioration du statut de l'espèce qui fait qu'elle recolonise progressivement de nombreux cours d'eau, de nombreux départements, dans de nombreuses régions. En fait, au milieu des années 80, on estime qu'il restait à peu près 1000 loutres en France. Et à partir du milieu des années 80, pour des raisons qui restent encore assez obscures, parce que tous les cours d'eau de France sont loin de s'être améliorés au niveau de leur qualité, on a constaté une expansion de l'espèce à partir des 5 foyers qui restaient, c'est-à-dire du Limousin, de la façade atlantique, des Pyrénées et de la Bretagne. Non, en fait, il y avait 4 foyers. Et du coup, depuis le milieu des années 80, sauf en Bretagne, non, c'est sur la façade atlantique où ça a été plus long à démarrer, mais dans les autres refuges, l'espèce a commencé à s'étendre un peu, à coloniser d'autres cours d'eau, au point que maintenant on estime que les anciens foyers sont aujourd'hui interconnectés. Quoi.
Et alors pourquoi on a eu l'envie ou peut-être le besoin de les chasser ?
Alors c'est une mentalité qui a toujours cours chez certains actuellement, c'est de considérer que tout ce qui fait concurrence à l'homme doit être éliminé. En l'occurrence, la loutre, on sait depuis toujours qu'elle mange beaucoup de poissons. Elle peut même en manger 800 à 1 kilo par jour. Alors certains trouvent que c'est beaucoup, mais je pourrais relativiser après sur cette quantité par rapport à la biomasse de poissons qu'on peut trouver dans un cours d'eau et par rapport à la densité des populations. Mais du coup, comme c'était une concurrente, dès la fin du 19e siècle, c'était la règle de la tuer autant qu'on pouvait. Il y a même des primes qui étaient délivrées par les collectivités ou par l'État pour tuer cet animal prédateur et concurrent de l'homme, quoi.
D'accord. Donc justement, par rapport à cette histoire, elle a failli disparaître, elle est de retour. Maintenant, elle est présente sur la totalité du département ?
Alors, on ne sait pas si elle a jamais totalement disparu de la Lozère. S'il en est resté, ce serait plutôt dans le nord de l'Aubrac et le nord Margeride. Mais la situation, elle était au plus mal en Lozère au début des années 80. Donc là, peut-être qu'il en restait, mais en tout cas, le noyau de population limousin n'était pas très loin, le Cantal notamment et la Creuse, qui ont toujours été les bastions quasiment nationaux de l'espèce. Donc si elle n'est pas disparue, elle a en tout cas commencé à recoloniser le sud du département et à retrouver notamment recoloniser le Lot, puis le Tarn vers les années 2000. 2002, je crois qu'elle colonise l'Hérault, elle franchit la ligne de partage des eaux, elle colonise les cours d'eau Sévenol dans les années 2000 vers 2010, et vers 2012-13, je crois, elle a quasiment colonisé tous les cours d'eau de la zone du parc national des Cévennes.
Et donc ça s'est fait naturellement, elle n'a pas été réintroduite par l'homme ?
Tout à fait naturellement, oui.
Parce que c'est une espèce qui, on ne l'a pas précisé, mais une loutre peut couvrir un territoire de quelle superficie à peu près ?
Alors, comme chez la plupart des mustélidés, c'est une structure sociale où on a le territoire d'un mâle qui recouvre celui de 2 ou 3 femelles. Et je parlais tout à l'heure de l'expansion de l'espèce dans les Cévennes, enfin même de la réappropriation des cours d'eau Sévenol par la loutre. Et cette colonisation de tous les cours d'eau du parc a été bien suivie par un thésard, Xavier Janssen, qui a fait son étude sur l'espèce, une étude génétique notamment. Et il a pu estimer, grâce en prélevant les crottes de l'animal et en analysant l'ADN qui les contiennent, de loutres, qu'il y avait à peu près 75 loutres sur tout le territoire du parc, c'est-à-dire à peu près 150 communes sur la Lozère et le Gard, quoi. Et un petit bout de l'Ardèche, quoi.
D'accord. Et du coup, je crois qu'on pouvait... On pouvait estimer que ça équivalait à 30 km de linéaire de cours d'eau pour une loutre.
15 km. Cet effectif ramené au linéaire de cours d'eau, au réseau hydrographique du parc, ça faisait à peu près une moyenne de 15 km, quoi. Sachant que le territoire des mâles est plus grand que celui des femelles, puisqu'il inclut celui de deux ou trois femelles, quoi. Mais en moyenne, on peut considérer qu'une loutre évolue sur 15 km de cours d'eau.
Voilà, d'où son impact relatif sur un endroit donné dans un ruisseau ou dans une rivière, quoi. C'est une loutre profite de la ressource alimentaire sur 15 km de ruisseau, plus les berges et les abords.
Tout à fait. Du coup, il y a une étude qui a été faite par, si je ne me trompe pas, Jocelyn van der Flick sur le cours du Tarn, justement. Et quand on calcule la biomasse de poissons qui évolue dans 15 km de cours d'eau, on parle de plusieurs tonnes de poissons. Et du coup, un super prédateur qui en mange 1 kilo par jour, ça fait que l'impact sur le peuplement piscicole est de à peu près 2% de tout le peuplement piscicole, c'est-à-dire tout à fait négligeable, d'autant plus que l'animal s'attaque essentiellement à des poissons, comme c'est un super prédateur qui, comme tous les prédateurs, obéit à la loi du moindre effort, c'est-à-dire j'essaye de manger le plus en dépensant le moins d'énergie. Et du coup, elle s'attaque essentiellement aux poissons malades ou aux poissons qui sont pas en parfaite santé. Et donc, elle a aussi un rôle sanitaire pour les cours d'eau, quoi, tout en ayant un impact très négligeable en termes de pourcentage de biomasse piscicole, quoi.
Donc, le regard de l'homme a effectivement changé à l'égard de cette petite bête.
Il commence. Ah, il y a encore un petit peu de travail, mais justement. Par rapport au fait qu'elle est partisane du moindre effort, je mange plus en faisant le moindre effort, elle peut parfois poser des problèmes, notamment dans les piscicultures. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des moyens, parce qu'on parlait la semaine dernière de mode de vie durable pour allier préservation des zones humides et activité humaine, quels moyens on peut avoir aujourd'hui pour protéger, si on peut dire, une pisciculture d'une loutre qui aurait trouvé le bon plan?
Alors, effectivement, on s'est penché sur ce problème, d'autant que l'ALEP pour l'Union méridionaliste a coordonné en fait le plan national d'action consacré à la loutre sur tout le Languedoc-Roussillon. Donc, on a fait une enquête auprès de tous les pisciculteurs du Languedoc-Roussillon, mais il y en a beaucoup moins que dans d'autres régions, comme dans le Forez, par exemple, qui est une région de pisciculture, ou dans d'autres régions où il y a très nombreux étangs d'élevage des carpes ou même de pisciculture de truites. Et en fait, on a eu sur les 15 réponses qu'on a reçues, c'est-à-dire la plus grande partie des piscicultures du Languedoc-Roussillon, il y a deux exploitants qui nous ont signalé des problèmes de prédation par la loutre. Et il y a eu ce genre de problème ailleurs en France, et notamment par exemple en Creuse, où il y a un ancien pisciculteur qui s'appelle Stéphane Raymond, qui s'est reconverti en médiateur pour trouver, et lui-même a été confronté au problème de la prédation par la loutre, et de lui-même, de son propre aveu, une fois qu'une loutre a repéré une source de nourriture facile, c'est extrêmement dur de trouver les systèmes qui permettent de faire en sorte qu'elle ne revienne pas. Autant c'est facile de faire en sorte qu'elle ne vienne pas, autant une fois qu'elle a découvert
le pot aux roses
ou cette source de nourriture facile et abondante, alors là ça devient très compliqué, mais il y a des solutions quand même qui existent, et on peut contacter notamment si on est pisciculteur et qu'on a des problèmes de prédation par la loutre, on peut contacter Stéphane Raymond auprès de la SEFPM qui est basée à Bourges, et il pourra venir se déplacer pour faire un diagnostic avec son point de vue d'ancien exploitant et ancien pisciculteur et amoureux de la loutre, puisque c'est lui-même un des grands spécialistes français de l'espèce. Voilà. Et il y a toujours des solutions, ça se trouve toujours.
Oui, ce qui est marrant, c'est qu'il était pisciculteur, il a eu des problèmes de prédation chez lui avec la loutre, il a passé des heures et des heures à l'observer, à essayer de trouver les solutions, jusqu'à devenir amoureux et passionné de la loutre, et à maintenant conseiller d'autres pisciculteurs pour que ça se passe mieux. D'accord, donc là, est-ce qu'en Lozère, il y a des piscicultures qui sont équipées, notamment en grillage, au Val d'Aunaise
À ma connaissance, non, parce qu'elles sont peut-être assez éloignées. En tout cas, on ne nous a pas signalé la seule... sur les deux piscicultures en Languedoc-Roussillon qui avaient des problèmes de loutre, il y en a une qui est en Lozère, et c'est celle de la Canourgue. mais qui également qui a une vocation pédagogique, je crois, qui n'est pas forcément une structure qui a pour but essentiel de vendre la production. Donc, en fait, ils ne nous ont jamais recontactés pour avoir éventuellement une aide quant à la protection vis-à-vis de l'espèce.
D'accord. Donc, en tout cas, il faut savoir qu'il y a des moyens qui existent, qui sont faciles à mettre en place. Et pour avoir des conseils, on peut contacter la SFEPM ou l'ALEP. En local. Ouais. Du coup, est-ce que c'est facile de voir une loutre quand on se balade ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de pouvoir la détecter, savoir si quand on se balade au bord de la rivière, elle est là, elle n'est pas là?
C'est peureux une loutre, non?
De moins en moins, parce que en fait, ça a été une des raisons en fait, qui a fait que son statut s'est amélioré à partir du milieu des années 80, c'est qu'elle est devenue protégée à partir de 1976. Donc à partir de cette date, même pas à partir de 1980 en fait. Et du coup à partir de cette date, il est devenu interdit de la tuer et c'est comme ça qu'elle a pu reconstituer ses effectifs. Et maintenant on est quoi, 35 ans après, et elle sait qu'elle est toujours protégée, normalement sauf braconnage qui ont l'air quand même assez rare. Et du coup elle devient de plus en plus facile à voir en plein jour. Si on veut voir une loutre et qu'on prend le temps et qu'on fait des affûts au petit matin au bord de cours d'eau, je pense qu'on a des très grandes chances de l'avoir. Ce ne sera pas au premier coup, ce ne sera pas au deuxième, mais en tout cas au cinquième ou au dixième, c'est sûr qu'on a des grandes chances de l'avoir. Mais la meilleure façon de détecter la présence de l'espèce sur un cours d'eau, ça reste encore la recherche de ces crottes, qu'on appelle en l'occurrence des épreintes, qui ont une forme assez particulière, en fait, par le fait qu'ils n'ont pas de forme du tout. Ce n'est pas des étrons bien formés comme on peut voir chez la plupart des autres mammifères, mais c'est des tas, en fait, des petits tas qu'on trouve sur des lieux posés bien en évidence à la confluence de cours d'eau ou sur des rochers qui émergent du lit de la rivière ou sur la base des piliers de pont, etc. Enfin, c'est ce qu'on appelle des sites de marquage qui sont quand on a l'œil, quand on a commencé à en voir quelques-unes, on sait, on présume en arrivant sur un cours d'eau où est-ce que, si on était une loutre, où est-ce qu'on déposerait les épreintes, et souvent on trouve là où on pensait qu'elles sont, quoi. Donc la meilleure façon de montrer, enfin, de toute façon maintenant actuellement on sait que les loutres sont présentes, fréquentes potentiellement tout le réseau hydrographique du départemental, c'est-à-dire qu'il y a tous les cours d'eau de Lozère peuvent accueillent potentiellement au moins une loutre, et donc on peut trouver ces épreintes sur tous les cours d'eau, quoi.
Voilà, donc il y a les épreintes, il y a aussi des restes de repas parfois qu'on peut retrouver. Des restes de grenouilles ou de poissons grignotés.
Ou des crevisses, effectivement, ou des crapauds aussi, qu'elles retournent d'une façon assez caractéristique, même si le vison peut faire la même chose, mais il n'y a pas de vison en Lozère. C'est-à-dire qu'elles mangent essentiellement les pattes arrière, vu que la partie avant du crapaud est un peu toxique. Donc elles mangent les pattes et elles retournent la peau comme un doigt de gant, en fait. Et ça fait des charniers, en fait, on appelle ça des carnages de crapauds, où on trouve plusieurs crapauds retournés en doigt de gant, où il manque que les pattes, ouais. Et qui sont assez typiques de la prédation par la loutre.
Ouais, là c'est assez spécifique. Ouais.
Ouais, voilà.
Mais c'est rare, je n'en ai encore jamais vu en Lozère, mais ça peut se trouver.
On peut difficilement se tromper, ouais. Alors si elle est plus chassée, si l'état des cours d'eau semble correct et s'il y a peu de braconnage, il y a quand même encore une menace actuelle qui peut peser sur les populations, c'est la circulation routière, non ?
Alors ça dépend des régions, effectivement. Par exemple, c'est un problème majeur critique, par exemple, dans le Marais Poitevin, donc c'est un terrain plat avec des marais, avec des routes sur digues surélevées par rapport au niveau de l'eau, avec des points de passage privilégiés au niveau des ponts. Donc comme l'espèce n'aime pas, il faut un certain espace au-dessus de l'eau pour qu'elle traverse sous la route. Des fois, comme il n'y a pas assez d'espace, elle préfère passer à côté du pont et traverser la route. Et sur les routes fréquentées, départementales ou nationales, là, il y a des régions où il y a des dizaines de cas de mortalité par an. En Languedoc-Roussillon, on a fait un bilan des cas de mortalité. On en connaît une cinquantaine depuis les années 2000, je crois, sur ces 12 dernières années. Il y a deux ou trois cas sur la 75 en Lozère. Il y a un point noir particulièrement en Lozère. Enfin, point noir, ça qui concerne que trois cas de mortalité maintenant. C'est au niveau des Ajustons, pour ceux qui connaissent, donc au carrefour de la Cologne et du Lot, où là, on a trouvé sur ces 10 dernières années 3 cadavres à cet endroit. Mais ça reste beaucoup moins que dans d'autres secteurs où la mortalité peut être beaucoup plus importante, mais ailleurs en France.
D'accord. Eh bien, voilà, je crois qu'on a fait le tour un peu rapidement, mais de manière assez complète de cet animal qu'on peut avoir la chance de trouver, d'observer. Par hasard, parfois au détour d'un chemin ou d'un méandre. Donc ouvrez l'œil lors de vos balades au lac de Charpal, au bord du Tarn.
Ou même au centre-ville de Mende, elle a déjà été vue plusieurs fois par plusieurs personnes.
Ouais, ouais, ouais,
surtout en hiver, en ce moment.
Voilà. Alors ouvrez l'œil et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique nature. Merci Fabien.
Merci à vous.
Merci beaucoup, au revoir, à la semaine prochaine.
Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48FM vous présente les chroniques de l'Allemagne.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allemagne.